De retour à l'émission Au gré du temps, on a le privilège aujourd'hui d'avoir un grand invité, Alexandre Dumas, le seul, le vrai, le véritable.
Ben, vous me faites beaucoup trop... je suis beaucoup trop l'objet de trop de générosité, Armand.
Alexandre, avant la pause, on parlait de ses premières années de métier. Oui. Un métier que vous avez eu à la dure, parce qu'il va fallait tout apprendre. Mais en même temps, témoin privilégié d'une société bouillonnante, est-ce qu'il y a des événements qui particulièrement vous ont profondément marqué?
Bon, je pense que les deux, mis à part le fait que pendant les premières années où j'étais à Radio-Canada, j'ai souvent eu l'occasion d'aller à l'international dans des zones de guerre, des zones de conflit, alors que c'était à nos propres risques, contrairement à aujourd'hui, ça ne diminue pas finalement, là, la portée de la mission que les journalistes de 2010-2012 déploient dans les zones de guerre. Mais à l'époque, c'était évidemment qu'avec notre micro, notre caméra, pas de veste de gilet pare-balles, pas d'équipement.
À ses propres risques.
On y allait à nos propres risques et périls, voilà, mais c'était quand même formidable. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les guerrieros, la guerre des Falklands, les îles Manouin et quelques autres. Mais tout ça pour dire, finalement... J'ai perdu le fil de la question.
Mais que vous appreniez
oui, effectivement. Les événements, par contre, les plus marquants, au-delà de ceux qui étaient sur la scène mondiale, sont des événements typiquement de chez nous. Je vous parlais un tout petit peu plus tôt de cet incendie de Chappey au jour de l'an 1980. Ça a été un événement marquant parce que, entre autres, une fois arrivé sur place, en pleine nuit du jour de l'an, les gens qui étaient dans leur célébration, qui se sentent un tout petit peu comme lacérés à grands coups de dagues et de poignards par cette douleur-là qui s'empare d'eux parce qu'on vient de perdre un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, un cousin, une cousine dans cet incendie-là en 1980. Ça devient des événements marquants, raison de plus qu'on avait entassé tous les corps des victimes dans un petit garage municipal qui est à peine plus grand que mon propre garage chez moi. 52 corps entassés, calcinés.
Ça, c'est une image qui reste présente.
Et qu'on doit enjamber pour faire notre travail. C'est horrible, oui. Et ça avait attiré chez nous même des journalistes, des grands médias d'Europe, des États-Unis, même de l'Union soviétique à l'époque. Ça, c'est un événement marquant. Tout comme l'a été Polytechnique, forcément,
bien
pour
sûr.
Toutes les raisons que l'on sait. Et comme l'a été aussi, à bien des égards, la guerre des motards qui s'est soldée en 2002, je pense, par une première vague contre les motards criminels.
Mais vous avez évoqué...
Où il y a eu des 160 morts dans la guerre des gangs de motards.
C'est terrible, ça aussi. Mais vous avez évoqué Polytechnique. J'ai aussi un souvenir très vivant, ce n'est pas un jeu de mots, mais de Polytechnique. Ce soir, j'y étais à ce moment-là.
Ouais.
Une journée, vous vous en souvenez sans aucun doute, où il faisait très, très froid, où on se demandait si vraiment, c'était chez nous qu'était survenu un tel événement.
Oui.
Et on devait commenter presque en direct, parce que la télévision en direct, les chaînes continues n'existaient pas encore.
À Radio-Canada, oui.
Ça avait commencé à Radio-Canada, mais pas à TVA.
Non.
Mais on était très présents durant la soirée pour faire ce qu'on appelait des bris de manchette. La situation évoluait toujours de façon de plus en plus dramatique.
Oui, et on apprenait avec horreur, d'heure en heure, au-delà du crime collectif, ce sont... les femmes qui étaient carrément dans la mire
de
Marc Lépine, et c'était là toute l'ampleur du drame. Et moi, j'ai réalisé aussi, pour avoir reçu une confidence d'un des policiers de première ligne qui était là, qu'on avait retrouvé cette fameuse lettre de Lépine dans laquelle il avait ciblé une vingtaine de personnes, de femmes, qui étaient dans divers secteurs d'activité, à commencer par les médias, et dont ils voulaient absolument faire, après Polytechnique, ses victimes aussi. Alors, ça ajoutait, l'horreur au désarroi et à ce chagrin immense du moment.
Et puisqu'on parle de la condition féminine, voilà une chanteuse qui s'est beaucoup préoccupée de la situation des femmes, Anne Sylvestre. Une chanson qui a pour titre « Pour aller retrouver ma source », parce qu'on pourra revenir par la suite sur la source qui alimente le journalisme d'enquête.
Et dans laquelle nous puisons aussi l'énergie.
Voici Anne Sylvestre.
plus on approche de l'estuaire, plus on se souvient du ruisseau qui, à peine sorti de terre, ignore tout des grandes eaux. Qu'on ait cheminé sans histoire ou coulé comme un sauvageon, tous on voudrait, comme la Loire, revoir son mont Gerbier de Jonc, revoir son mont Gerbier de Jonc. Je prendrai à tous les sourciers leurs baguettes de coudrier pour aller retrouver ma source. Là, je pourrai m'ensommeiller comme s'arrêtent de veiller les vieilles louves et les ours. Lorsque j'ai glissé de ma mère après qu'elle eut perdu les eaux, entre un fleuve et une rivière, on posa mon premier berceau. Et ce fut ma première ville, entre ses jambes j'ai dormi. Si je fis des rêves fertiles, il m'en vient encore aujourd'hui, il m'en vient encore aujourd'hui. Je prendrai à tous les sourciers leurs baguettes de coudrier pour aller retrouver ma source. Là, je pourrai m'ensommeiller comme s'arrêtent de veiller les vieilles louves et les ours. De tout ce qui nous prédestine, on ne sait pas le moindre mot, ni pourquoi toujours je m'obstine à suivre les chemins de l'eau. J'ai bu à toutes les fontaines, me suis penché sur tant de puits, que mon image est incertaine, je la cherche encore aujourd'hui, je la cherche encore aujourd'hui. Je prendrai à tous les sourciers leurs baguettes de coudrier pour aller retrouver ma source. Là, je pourrai m'ensommeiller comme s'arrêtent de veiller les vieilles louves et les ours. J'ai passé des heures entières à jeter des pierres dans l'eau, à patauger dans des rivières ou les pieds dans le caniveau. Mais les vagues toujours s'étalent et les cailloux tombent au fond, toujours les grenouilles détalent et les beaux reflets se défont, et les beaux reflets se défont. Je prendrai à tous les sourciers leurs baguettes de coudrier pour aller retrouver ma source. Là, je pourrai m'ensommeiller comme s'arrêtent de veiller les vieilles louves et les ours. Je veux puiser dans mes richesses comme la citerne le seau. Ne craignez pas la sécheresse, il me reste encore de l'eau. Que dans ma voix elle ruisselle, qu'elle chemine à ciel ouvert. Et tant qu'elle se renouvelle, on repoussera le désert, on repoussera le désert. Je prendrai à tous les sourciers leurs baguettes de coudrier pour aller retrouver ma source. Là, je pourrai m'ensommeiller comme s'arrêtent de veiller les vieilles louves et les ours. Je prendrai à tous les sourciers leurs baguettes de coudrier pour aller retrouver ma source. Là, je pourrai comme s'arrêtent de veiller les vieilles louves et les ours.
Pour aller retrouver ma source, Anne Sylvestre avec nous aujourd'hui, Alexandre Dumas. Les sources journalistiques, souvent, oui, elles sont questionnées.
Oui.
On se demande comment réussit-on à faire parfois un travail qui est presque parallèle à celui du travail policier ou d'enquêteur.
Oui, mais je pense que la source est l'élément incontournable de tout journaliste digne de ce nom qui veut faire du travail d'enquête, mais qui, lorsqu'il pratique le métier au quotidien, avec toutes les contraintes de tomber rapproché, avec toutes les contraintes de temps qui sont imparties au journalisme quotidien, à défaut de faire de l'enquête, fait du prospectif. Alors, il se doit de bâtir un réseau, et ce réseau-là se gagne simplement par la confiance et la fréquence des relations que l'on noue. Et ça, ça exige de la part de tous les journalistes qu'ils sortent de leur petit confort, qu'ils aillent dans la rue. Victor Hugo disait que la poésie est dans la rue. Alexandre Dumas peut se permettre de dire aujourd'hui que la nouvelle se trouve dans la rue. Tout ça pour dire qu'un journaliste qui veut faire son métier en respectant finalement les grands préceptes journalistiques qui veulent que l'on doive une loyauté extrême à ceux qui nous font confiance, aux auditoires, notre public finalement, on doit donc se bâtir un réseau d'informateurs et de contacts qui va du dernier des voyous dans la rue jusqu'au premier ministre, quasiment même au pape, en passant par tous les segments, toutes les niches de la société, que ce soit les gens d'affaires, les leaders syndicaux, les leaders municipaux, les groupes de pression, bref, que tous ces gens-là fassent partie de ce réseau-là. Et c'est avec ça qu'on réussit finalement à faire le métier, puis à le faire justement dans le respect de ce précepte-là, c'est-à-dire de rendre compte au public de tout ce qui est d'intérêt public et non d'intérêt particulier.
Fascinant. Vous voyez, il n'a pas changé. Hein? Il est toujours aussi éloquent dans la façon de relater les choses, mais le
vous
temps
êtes très file. Élégant pour dire que je suis de trop grande gueule
non,
parfois,
non, pas du
mais
tout.
C'est la passion qui m'anime encore. Mais,
et je la sens, et c'est ça qui est merveilleux passion. Chez ouais. vous. Je veux juste présenter la prochaine pièce parce que vous nous avez fait entendre Hey Jude des Beatles.
Oui, oui.
Et j'aimerais vous faire entendre une chanson merveilleuse interprétée par Mary Hopkin. Mary Hopkin a commencé sa carrière comme chanteuse folk avec un groupe local du Pays de Galles.
Oui, oui.
C'est la mannequin Twiggy, vous vous souvenez Twiggy,
parfaitement, oui.
Qu'il a remarqué dans une émission télé destinée aux nouveaux talents et qu'il a recommandé à Paul McCartney. Elle devient la première artiste à signer pour le label Apple après les Beatles.
Si je ne m'abuse, même en 69.
Voilà. Et la chanson que je vais vous faire entendre est peut-être moins connue que ce qui a été un vrai succès qui s'appelait « Those Were the Days ». Celle-ci, c'est « The Fields of Saint-Étienne ». C'est vraiment magnifique. Je vous l'offre.
Et on la découvre ensemble.
Saint-Étienne, amidst the corn I wander, in my hand an ear of corn the morning dew has kissed. Here beneath these skies I lay with my lover, while the
Alors, c'était Mary Hopkins et celui qui peut-être a laissé sa marque à Radio-Canada parce qu'il avait son style et il avait aussi cette capacité de réflexion sur le fait divers, parce que raconter un fait divers, ça peut être très ennuyant ou au contraire, ça peut être un tremplin pour mieux réfléchir sur les actions qu'on a à poser comme citoyen, n'est-ce pas?
Oui, parfaitement. Et essentiellement, c'est une histoire, le fait divers, qui touche tout le monde, qui touche tout le monde, qui touche la mère de famille, qui touche, le travailleur, qui touche l'élu, qui touche le fonctionnaire, qui touche tout le monde, en définitive. Et je prends pour preuve des événements malheureux qu'on a connus, comme regardez la fameuse disparition de la petite à Terrebonne dont le nom m'échappe et dont le papa, le monsieur surprenant,
est toujours
actif à vouloir tenter de faire son propre deuil d'abord. Et à chaque fois que je le croise ou que j'ai l'occasion de le voir à la télévision, je partage un tout petit peu la douleur qui est la sienne parce que ça doit être une véritable chape de plomb d'être dans l'impossibilité de pouvoir faire son deuil. C'est pas un fait divers parce que ça interpelle tout le monde, toute la société est interpellée, est concernée par un drame comme celui-là. Combien d'enfants ont été la cible, les victimes de prédateurs au fil des dernières années, des histoires scabreuses, incroyables. On a vu pas très loin ici, dans le sud-ouest de Montréal, où se trouve Radio Centre-Ville, mais Radio Ville-Marie. Ici, on a vu pas très loin l'histoire de la petite Jolaine Riendeau, qui fait parler encore 12-15 ans plus tard. Et ce sont des événements que certains étaient tentés de taxer de faits divers, mais ce sont des faits qui touchent la vie humaine, des faits de société, appelons ça comme on voudra, mais des faits qui ne laissent personne insensible et qui ne doivent d'ailleurs laisser personne insensible parce que c'est, à toute fin utile, l'expression également des grands malaises et des grandes tares de notre société et de ceux qui la composent.
Alexandre, Jean-Pierre Ferland, pourquoi?
Ah, parce que ça me rappelle, l'incroyable mansuétude dont ma compagne, mon épouse de la première heure, avec laquelle je suis marié depuis 43 ans bientôt, qui est la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants adorés, elle a été d'une incroyable générosité, d'une incroyable mansuétude, d'une incroyable écoute pour moi, qui a l'impression d'avoir souvent été un très mauvais père et un très mauvais mari, en raison des éloignements à répétition que métier m'imposait. Et je lui dis souvent, en plus de l'aimer de toutes mes forces, qu'elle est encore, même dans la soixantaine, la plus belle.
T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs ou courts, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Naturelle, à mon goût, sans lunettes de soleil et sans bijoux. T'es belle, quand je sors avec toi, je lave mon auto, je me rase deux fois. Tes beaux yeux, ma main douce, il neige sur tes dents. 40 ans, mon amour, je t'aime en ce moment. Je t'adore en plein jour. Naturel, décoiffé, sans fourrure, sans Chanel et pas bronzée. Mon beau trésor, mes amis t'aiment et moi je t'adore. Les années filent, c'est l'an 2000, je t'aime aussi fort. Et mon idole, depuis l'école, t'es la femme dont j'ai rêvé, flamboyante, renfermée. Ultra chatonne, super sexy. Je t'aime, tu ne peux pas savoir. Tu marches avec des gants, tu descends l'escalier, on dirait comme le vent. Tellement t'es raffiné, naturel, à mon goût, sans lunettes de soleil et sans bijoux. Veux-tu danser?
Une vraiment belle chanson. T'es belle, c'est un peu les mots qu'utiliserait oui. Alexandre Dumas.
Probablement.
Encore
oui.
aujourd'hui
je
auprès de sa
belle. Je me suis risqué, je vais vous faire une autre confidence.
Il est reparti, vous voyez.
Un musicien et un compositeur, un auteur-compositeur frustré.
C'est vrai?
Oui, et je me suis risqué à une époque, dans mon adolescence ou mon âge préadulte, à faire une carrière un peu. Et j'avais fait d'ailleurs mon récital d'adieu.
Est-ce qu'il en est resté
de
des
20
traces?
Ans, oui, mais j'oserais pas vous dire où elle se retrouve. Et ça va vous rappeler quelque chose. En 1969, il y avait, une émission qui était le pendant du fameux Bye Bye à Télémétropole, qui ne s'appelait pas TVA à l'époque, où j'ai co-animé l'émission du jour de l'an avec Jacques Normand et d'autres...
Ah oui.
D'autres...
Et on vous a imité
d'autres
aussi bonds, dans d'autres émissions.
Monuments. Et on m'a imité aussi, oui, je prends ça comme...
un compliment.
Comment dirais-je, un compliment, oui,
bien sûr.
Puis j'ai toujours trouvé le moyen de rigoler avec ça. Parce que si on ne va pas un rire, on ne va pas une claque.
Mais c'est curieux, hein, parce que, il y a quelques semaines, est décédé Jean-Guy Moreau.
Oui.
Et Jean-Pierre Ferland disait qu'à une certaine époque, lorsqu'on n'était pas imité par Moreau, c'est que notre carrière n'allait pas bien.
C'est ça.
Et on souhaitait tous un jour être imité par Jean-Guy
oui,
Moreau.
Tout le monde commençait à faire du chant de punaise, à ne pas être imité par Moreau, mais... Oui, effectivement, j'ai pris ça comme un compliment.
Et lorsqu'on vous imitait,
particulièrement, oui.
Et quand on vous imitait, Alexandre,
oui,
on
oui.
mettait en évidence ce côté gentleman. Le reporter qui était toujours, d'ailleurs, habillé comme une carte de mode et qui avait ce style qui laissait désirer le téléspectateur pour connaître jusqu'au dernier mot que vous alliez prononcer, parce qu'on ne sait jamais quand va se terminer
ouais.
votre phrase.
Ben souvent, oui. Il arrive parfois. Et même, ce qui me fait rigoler, il y a Louise Cousineau, qui a longtemps tenu la chronique de la télévision, des médias, de la radio, à La Presse, et qui m'avait un tout petit peu comme tombé sur le paletot, parce qu'à la faveur d'un direct où je me sentais bousculé, j'ai eu l'audace de dire qu'un des suspects était, vaguement, pensait-on, d'origine asiatique. Alors, elle avait rigolé avec tout ça, elle m'avait passé un savon, mais je lui avais répondu que, de toute façon, peu importe. cite vaguement ou précisément, ça pouvait être probablement le descriptif le plus fidèle d'un suspect comme ça qui était l'auteur d'un crime odieux. Alors,
monsieur,
ben oui, on peut en rigoler.
On,
oui,
on peut dire monsieur oui. Dumas maintenant parce qu'il a gagné ses lettres de noblesse. Alexandre, malgré tout, comme vous avez tant à raconter, on vous invite la semaine prochaine.
Ben, mon cher Armand, c'est tout de plaisir. C'est un privilège dont j'oserais me priver moi-même.
Alors, vous serez
tellement
des nôtres.
C'est un plaisir.
Et on va terminer cette première émission avec une pièce qu'on vous dédie particulièrement. On a parlé du gentleman. Vous avez couvert les faits divers, si on peut dire, les affaires policières.
Ben,
alors,
oui.
Si on joint les deux, ça donne... Un gentleman cambrioleur.
Mais pourquoi pas?
Et c'est Jacques Dutronc. Alors, on terminera cette émission avec cette belle chanson des années 60, qui a fait
Mais
époque
oui.
quand même. Alors, c'était l'émission Au gré du temps. Nous recevions aujourd'hui Alexandre Dumas, qui sera de retour la semaine prochaine avec nous. Cette émission a été réalisée sous la supervision de M. Weiss, de son prénom Antonin. Armand Dubois, micro. Au plaisir. Passez une belle semaine. Au revoir.
À la semaine prochaine.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure.